You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Et on commence avec le tennis à Roland-Garros, donc l'Australienne Ash Barty qui a gagné son premier Grand Chelem hier, une première depuis 1973, depuis la victoire de Margaret Court, l'Australienne. Et on reviendra largement sur cette nouvelle tout à l'heure dans le magazine des sports. La police fédérale australienne aurait enlevé les textos de deux politiciens travaillistes, des éléments de preuve recueillis lors d'une descente au domicile de la journaliste Annika Smethurst de News Corp. Et selon News Corp, les officiers avaient initialement prévu de saisir les échanges de textes échangés entre le téléphone de Mademoiselle Smethurst et les collègues travaillistes Richard Miles et Murray Watt lors du raid de la police fédérale cette semaine. Un officier haut gradé de la police aurait dit à un collègue plus jeune d'ignorer les conversations avec les politiciens en dehors des preuves recueillies. Le sénateur Watt avait repris l'histoire de Mademoiselle Smethurst au sujet d'un plan visant à permettre aux autorités d'espionner les Australiens discutés lors d'une enquête parlementaire du Sénat. La journaliste avait contacté Richard Miles pour obtenir ses commentaires. Des milliers de personnes devraient défendre le droit à l'avortement lors d'une marche à Sydney ce dimanche, attirant l'attention sur des lois qui criminalisent toujours l'acte dans certains États australiens. The Our Bodies Our Choice March a été lancée il y a quelques semaines par un élève du secondaire âgé de 17 ans, mais a depuis reçu un soutien considérable après l'adoption de lois restrictives sur l'avortement aux États-Unis. Écoutez Bella Ziad, organisatrice de l'événement.
No one should be able to impose their beliefs or values or opinions on anybody else, on their body, on their mind, except for the person themselves.
Les fouilles dans une maison de Brisbane au Queensland reprennent après que la police enquête sur le meurtre présumé d'une femme américaine disparue l'an dernier. Priscilla Bruton a disparu de Brackenbridge en juillet 2018, mais n'a été portée disparue qu'en décembre de l'année dernière. La police a prolongé la recherche de la mère disparue en utilisant des chiens pour fouiller la maison de son ancien partenaire. Le détective Michael Hogan a déclaré que la femme de 46 ans aimait les paris, les jeux et qu'elle aurait pu faire craindre pour sa sécurité en ligne avant sa disparition.
We suspect that a lot of the people that she associated with online and also in some private clubs may not know that police are investigating her disappearance. Police are asking that those people who may have had contact with Miss Bruton come forward and give some information.
Michael Hogan de la police du Queensland. Un corps a été retrouvé lors des recherches d'une femme disparue à bord d'un avion ultra léger qui s'est écrasé dans le lac Hildon dans le Victoria, dans la région alpine de l'État, hier après-midi, samedi. Le pilote a survécu et a été embarqué par un bateau de pêche, mais sa passagère n'a pas été retrouvée. Les autorités ont repris les recherches de l'avion ce dimanche. Un garçon qui a passé 6 heures en mer avec deux hommes après le naufrage de leur bateau au large de la côte au Queensland. Et dans un état critique, la police maritime est partie à la recherche du trio après avoir reçu un appel de détresse dans les premières heures de ce matin. L'enfant est soigné à l'hôpital de l'Université du Sunshine Coast. Le Mexique et les États-Unis trouvent un accord sur l'immigration, donc plus de menaces des droits de douane sur les produits mexicains. Et concernant l'accord sur l'immigration entre les États-Unis et le Mexique, les pays d'origine d'où viennent les migrants se posent des questions. Explication, Romain Lemaresquier pour Radio France Internationale.
Si la presse mexicaine critique le manque de transparence des autorités américaines et mexicaines sur le contenu exact de l'accord scellé entre ces deux pays, en Amérique centrale, cette opacité interroge. C'est le cas notamment du vice-président guatémaltèque, Jafet Cabrera, qui se dit surpris que dans cet accord soit stipulé qu'une renégociation de l'accord CA4 soit envisagée. Le CA4 est un accord qui permet aux citoyens du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua de circuler librement en Amérique centrale, un accord donc scellé entre ces ces quatre pays. Or, selon le ministre mexicain des Affaires étrangères, il serait question de revenir sur cet accord, ce qui n'est pas inscrit à l'agenda selon Jafet Cabrera. Si le vice-président guatémaltèque ne semble pas surpris du déploiement de la garde nationale mexicaine à la frontière avec son pays, il explique que si d'aventure le Mexique souhaite fermer cette frontière, il faudra alors parvenir à un accord avec le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères. Jafet Cabrera estime que migrer est un droit de l'homme et que tout centre-américain a le droit de traverser les frontières sans plus de formalités, même s'il dit comprendre que le Mexique ait dû prendre de telles mesures étant donné les pressions exercées par les États-Unis.
Romain Le Maresquier pour RFI. Au Soudan, deux leaders de la contestation arrêtés hier à Khartoum. Il n'y a aussi plus de dialogue entre les militaires au pouvoir et les civils. Cette semaine, il y a eu la sanglante répression qui a fait plus d'une centaine de morts. Reportage Sébastien Hémet pour RFI.
Pour cette nouvelle action, l'Alliance pour la liberté et le changement appelle à la prudence. Les miliciens poursuivent, arrêtent et menacent des employés des secteurs bancaires, électriques et aéroportuaires, prévient l'organisation en tête de la révolte. C'est une campagne risquée, ajoute un représentant, car dit-il, les putschistes pourraient être tentés de briser à nouveau le mouvement dans le sang. Depuis l'attaque du sit-in, le chef de la junte, Abdel Fattah al-Burhan, a proposé une reprise des pourparlers sans condition. Hors de question, répondent les civils, qui, eux, ont posé des exigences, notamment que le Conseil militaire reconnaisse sa culpabilité dans le massacre et qu'une commission d'enquête internationale soit mise sur pied. Vendredi, le Premier ministre éthiopien a bien tenté une médiation. Selon Rachid Saïd, porte-parole de l'Association des professionnels, Abiy Ahmed a proposé un retour. Accord signé, mais rompu par la junte, compromis qui départageait le pouvoir au Parlement et au gouvernement. Quant au Conseil de souveraineté, l'organe qui piloterait la transition et dont les négociations n'avaient jamais abouti, le chef du gouvernement a proposé 8 civils et 7 militaires avec une présidence tournante. Or, juste après leur sortie de l'ambassade d'Éthiopie, deux opposants, Mohamed Esmat et Ismaël Jalab, ont été arrêtés. C'est un très mauvais signe qui prouve que la junte ne veut pas négocier, réagit Rachid Saïd.
Sébastien Hémet pour RFI. Les ministres des Finances du G20 réunis ce week-end au Japon sont arrivés à un accord pour réformer la taxation du géant numérique comme Google et Facebook, mais ils s'opposent à la méthode à mettre en place pour y parvenir. Écoutez le ministre du Trésor américain, Steve Mnuchin.
The distinction between a marketplace and a company that sells online through their own inventory is not a distinction that should be taxed separately, that if we're going to look at this challenge, we need a fair and consistent basis across a business.
En Serbie, 6 mois de manifestations contre le régime du président serbe à Belgrade et dans plusieurs villes du pays. La mobilisation a baissé depuis les records de février et mars dernier. Reportage Laurent Rouy, RFI.
Samedi, les 2000 manifestants de Belgrade se sont dirigés vers la télévision d'État, qui soutient ouvertement le pouvoir et censure l'opposition. On est loin des 30 000 personnes dénombrées en mars, mais le mouvement est le plus long depuis les manifestations anti-Milosevic de 1996. Pour Mladen, un retraité, ce seul fait est un succès.
Des dizaines de milliers de citoyens dans une centaine de villes de Serbie ont dit qu'ils n'acceptaient plus ce pouvoir de voleur.
Le président Vučić rejette le dialogue sur les élections que réclament les manifestants. Ceux-ci revendiquent pourtant une victoire. L'Union européenne critique pour la première fois la faiblesse des réformes, comme l'explique cet étudiant.
Je suis très content que le rapport de la Commission européenne qui est sorti il y a une semaine montre que les fonctionnaires européens voient ce qui se passe ici.
Pour Slajana, une retraitée, les manifestations ont aussi obligé le pouvoir à réagir contre certains fonctionnaires du parti.
Nous avons obligé la justice à lancer des procès dans des cas flagrants où les victimes étaient des petites gens. Aucun membre du parti du président n'aurait jamais été inquiété si nous n'avions pas protesté.
Devant le siège de la télévision, un manifestant lit au micro un bulletin d'information alternatif. Il est question de construction illégale. Des nouvelles qui n'ont pas trouvé leur place dans les journaux proches du pouvoir.
Laurent Rouy pour RFI. Une marche à Paris hier pour faire prendre conscience de l'importance des océans pour l'homme et pour les protéger. Reportage Pierre-Olivier, RFI.
Ambiance marine dans les chants repris en chœur par les manifestants, mais aussi dans leur tenue.
J'ai un aileron de requin sur la tête. Je représente fièrement les requins aujourd'hui. Et ça protège de la pluie comme ça, donc je suis prêt. Quelques gouttes de pluie comme un clin d'œil de l'océan s'abattent sur le cortège parisien. Apolline Benoît, 23 ans, vit à Marseille et selon elle, difficile de chérir la mer quand on ne la côtoie pas tous les jours.
Quand on voit la mer au quotidien, même le fait de pouvoir se baigner et puis de voir la pollution plastique par exemple au quotidien, forcément ça a un impact. Et si on est loin de tout ça, c'est plus difficile de se rendre compte des gestes qu'on a au quotidien que ça a un effet sur les océans en fait.
Ne pas jeter son mégot par terre, éviter les sacs en plastique, autant de conseils que les jeunes, nombreux à cette première marche de l'océan, répètent au badaud. Et puis, ne pas trop consommer de poissons, comme l'explique Mathias Collardel, 21 ans.
Le problème, c'est qu'on s'apparente beaucoup plus à une vache qu'à un poisson, parce que c'est un mammifère, on peut percevoir sa douleur ou... Mais les poissons, c'est pareil, c'est des élevages où ils sont tous entassés et c'est encore moins réglementé finalement.
Après cette première édition, les manifestants espèrent qu'ils seront encore plus nombreux l'année prochaine pour venir défendre les océans qui recouvrent 70% de notre planète.
Pierre Olivier pour RFI. En Australie, à nouveau, une statue en bronze représentant le footballeur aborigène Nicky Winmar et sa prise de position contre les abus racistes des spectateurs sera dévoilée dans un stade à Perth le mois prochain. À l'époque, en réaction à un feu d'abus racistes de la part des fans de Collingwood, Nicky Winmar a soulevé son maillot de St Kilda et a montré du doigt sa poitrine après une grande victoire chez les Magpies dans leur stade de Victoria Park à Melbourne. Né en Australie occidentale de la tribu des Noongar, Nicky Winmar espère que la statue encourage davantage de conversation et d'éducation sur l'histoire de la culture autochtone. Sport avec la Coupe du Monde féminine 2019 en France. Les Matildas joueront leur premier match ce soir contre l'Italie à partir de 21h et diffusé en direct sur la télé SBS, écoutez la capitaine australienne Sam Kerr.
Yeah, we're feeling really confident. We feel like we've had a really good lead up to the World Cup. Obviously, the result against Holland wasn't what we wanted, but it was all part of the process. We thought we played good football, and you know, it was a learning curve for us. And we feel like we've had a really good preparation in Turkey, got lots of work in, and everyone's feeling really confident. We've come together really well as a team, and you know, stuff that's happened has only made us closer as a team. So we feel really good about it.
Voilà la capitaine des Matildas, Sam Kerr. On écoute maintenant le sélectionneur des Matildas, Ante Milic, sur ce qu'on peut attendre des Italiennes.
I think they're probably one of the most improved teams in women's football. I see the big clubs in Italy have invested a lot in the women's game. I've personally seen the majority of their squad play live, so I understand the investment that they've made. I think... Individually, they're very strong. Tactically, they're flexible, very strong on set pieces. So we fully respect our opposition.
Ante Milic, sélectionneur des Matildas. Et pour rappel, la France a battu la Corée du Sud 4-0 en match d'ouverture vendredi. La Norvège a hier battu le Nigeria 3-0. L'Afrique du Sud est battu par l'Espagne 3-1, le Cameroun jouera contre le Canada demain lundi. Et je rappelle, les matchs seront diffusés sur la télé SBS et SBS Radio 3 et 4 également. Et puis la France a été battue par la Turquie. On parle du foot masculin, battue par la Turquie 2-0 en match qualificatif de l'Euro 2020. On écoute la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
Quand il y a une prestation collective comme ça, voilà, il n'y a rien à en retenir de positif. On n'a pas fait le match qu'il fallait face à une équipe qui a joué comme elle aime jouer et nous, on n'était pas là. Donc c'est ça le haut niveau. Qu'on soit champion du monde ou pas d'ailleurs, à partir du moment où on n'est pas là avec les intentions, on ne peut rien espérer. Et heureusement que c'est comme ça. Donc on prend une belle gifle ce soir. On a un match qui nous attend différent dans 3 jours. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est bravo à la Turquie et nous retourner à nos basiques.
Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 18 degrés. Adélaïde 18 également. Melbourne 17. Hobart 15. Canberra 15. Sydney 22. Brisbane 23. Cairns 27. Darwin 31. Alice Springs maximal de 26 degrés. Un rappel des grands titres de ce 9 juin, les lois australiennes sur les médias à l'étude après deux descentes de la police fédérale cette semaine. Trois personnes sauvées après le naufrage de leur bateau au large des côtes du Queensland et la victoire de Ash Barty en finale à Roland-Garros pour son premier grand chelem. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.